VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 9 septembre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Présidentielle en Guinée, 12 candidatures dont celle du président Alpha Condé ont été validées par la Cour constitutionnelle. En Éthiopie, vote unilatéral des Tigréens qui ont rejeté l'extension du mandat des députés voté par le Parlement fédéral. Les États-Unis vont réduire leur présence militaire en Irak et en Afghanistan. Une promesse de campagne du président Donald Trump. L'Europe s'organise pour secourir des milliers de migrants sans abri après l'incendie de leur camp en Grèce. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. En Guinée, 12 candidats dont le chef de l'État Alpha Condé vont se présenter à la présidentielle du 18 octobre, selon la liste validée ce mercredi par la Cour constitutionnelle. Le point avec Abdourahman Dia.
La Cour a écarté pour des raisons médicales une seule des 13 candidatures, ont indiqué des responsables de la Cour. Il s'agit de celle d'Edouard Zoutomou Pogomou de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès. Le président sortant Alpha Condé, candidat à un troisième mandat, va une nouvelle fois croiser le fer avec le leader de l'opposition et ancien premier ministre Seydou d'Alain Diallo. Ce dernier a d'ailleurs été écarté par ses camarades du Front National de Défense de la Constitution qui s'oppose depuis des mois à la candidature du président Condé. Le chef de l'État sortant a mis le 2 septembre un terme définitif à plusieurs mois d'ambiguïté en confirmant sa candidature. Lui et ses partisans soutiennent que la nouvelle constitution qu'il a fait adopter en mars remet son compteur personnel à zéro et lui permet donc de se représenter. Ses adversaires dénoncent un coup d'État constitutionnel. La protestation a mobilisé à différentes reprises des milliers de Guinéens. Elle a donné lieu à des heurts. Des dizaines de civils ont été tués.
Le tribunal spécial résiduel pour la Sierra Leone a déclaré avoir accepté la demande de libération conditionnelle d'un ancien chef rebelle condamné en 2009 à 25 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Augustine Gbao, ancien chef du Front révolutionnaire uni, purge sa peine à la prison de Mpanga. Des pirates ont pris d'assaut mardi un navire au large du Nigeria et ont enlevé 2 employés, a annoncé la compagnie néerlandaise Sea Trade. L'attaque s'est déroulée sur le Water Phoenix, un navire frigorifique battant pavillon libérien lors de son trajet vers Lagos. Les 16 autres membres d'équipage sont indemnes. Le bateau a été escorté par la marine nigériane à son poste d'amarrage. En Éthiopie, la région du Tigré a tenu des élections ce mercredi, malgré la décision du pouvoir fédéral de repousser tous les scrutins électoraux en raison de la pandémie de coronavirus. Claire Morin-Gibourg.
Ce vote, considéré comme illégal par Addis Abeba, constitue le dernier défi pour le gouvernement d'Abiy Ahmed, qui fait face à de profondes divisions politiques et ethniques. Plus de 600 candidats appartenant à 5 partis politiques se disputent 152 sièges au Parlement régional. Le grand favori est le Front de libération des peuples du Tigré qui a dirigé la coalition au pouvoir jusqu'à l'arrivée d'Abiy Ahmed. Après le report inédit de ces élections, l'extension du mandat des députés voté par le Parlement fédéral a été rejetée par les leaders tigréens qui ont décidé de tenir unilatéralement des élections. La décision a provoqué le courroux de l'État fédéral qui estime le scrutin sans base légale, donc nul et non avenu. Mais Abiy Ahmed a écarté toute intervention militaire ou des coupes budgétaires. Les résultats préliminaires de ce vote pourraient être connus dès jeudi soir.
La République autoproclamée du Somaliland a ouvert une représentation à Taïwan, renforçant ainsi les liens entre ces deux États souverains de facto. En août, Taïwan a ouvert une représentation au Somaliland, suscitant la colère de la Somalie qui a condamné ces tentatives imprudentes d'enfreindre la souveraineté de la République fédérale de Somalie. Le Somaliland a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991. Le gouvernement marocain a décidé de prolonger d'un mois l'état d'urgence sanitaire pour faire face à la pandémie de Covid-19, a annoncé le Premier ministre. Cette nouvelle prolongation va permettre l'adoption de mesures d'urgence comme le récent verrouillage de Casablanca avec couvre-feu, le contrôle strict des déplacements et la fermeture de toutes les écoles la veille de la rentrée scolaire. Reporters sans frontières appelle à la libération du journaliste algérien Khaled Rahreni, dont le procès en appel a commencé hier. Le procureur a requis 4 ans de prison ferme contre le directeur de Kashba Tribune. Le journalisme que je pratique ne menace pas la sécurité du pays, mais le protège, a plaidé Rahreni à l'issue de l'audience. Le verdict est attendu le 15 septembre.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée américaine a annoncé une nouvelle réduction de ses effectifs en Irak, conformément à la promesse du président Donald Trump, candidat à sa réélection en novembre. Le point avec Nanit Talani.
Les États-Unis ont décidé de réduire leur présence militaire en Irak d'environ 5200 à 3000 militaires durant le mois de septembre, a déclaré le général Kenneth McKenzie, chef du commandement militaire américain au Moyen-Orient, à Bagdad à l'occasion de la prise de fonction d'un nouveau commandant de la coalition anti-État islamique. Le général McKenzie a souligné que Washington continuerait à épauler l'armée irakienne dans sa lutte contre les derniers éléments du groupe État islamique encore actif dans le pays et qu'il maintiendrait une présence limitée en Syrie. Un haut responsable de l'administration Trump a également indiqué que le président américain annoncerait prochainement des retraits d'Afghanistan où les États-Unis disposent de 8600 militaires. Lors d'un meeting de campagne en Caroline du Nord, Donald Trump a encore renoué hier avec sa promesse de désengagement des guerres sans fin. « Nous ramenons nos troupes à la maison depuis tous ces endroits lointains », a-t-il déclaré, ajoutant « Nous avons dépensé des milliards de dollars et qu'est-ce que nous en avons retiré ?»
En Afghanistan, au moins 10 personnes ont été tuées à Kaboul lors d'un attentat contre le convoi du vice-président Amroullah Saleh. Alors que des pourparlers entre les insurgés et le gouvernement doivent démarrer à Doha, les talibans ont dit ne pas être impliqués dans l'attaque. La délégation de l'Union européenne en Afghanistan a dénoncé un acte commis par ceux qui veulent gâcher les efforts de paix. En Grèce, un incendie a ravagé le plus grand camp de réfugiés du pays qui abrite 12 000 migrants. Les pompiers ont lancé une opération de sauvetage d'envergure. Le point avec Mouamadou Oumfa.
L'incendie aurait été déclenché par des migrants qui se sont rebellés contre des mesures d'isolement destinées à empêcher la propagation du coronavirus. Selon le président du syndicat des pompiers de Lesbos, le camp a brûlé à 99%. Il précise que pour l'instant, il n'y a pas de victimes, mais quelques blessés légers avec des problèmes respiratoires. Plusieurs heures après le début de l'incendie, une fumée noire continue à s'élever du camp qui héberge actuellement près de 12 700 demandeurs d'asile, 4 fois sa capacité d'accueil. L'île de Lesbos est déclarée en état d'urgence, a affirmé le porte-parole du gouvernement grec. Tous les réfugiés du camp ont l'interdiction de quitter l'île. L'Allemagne a demandé aux pays de l'Union européenne d'accueillir des migrants de ce camp et la Commission européenne a annoncé qu'elle prenait en charge le transfert immédiat vers la Grèce continentale de 400 enfants et adolescents. La Norvège a annoncé pour sa part qu'elle allait accueillir 50 migrants, en premier lieu des familles originaires de Syrie.
Les incendies continuent de se propager sur la côte ouest des États-Unis, de la Californie à l'État de Washington, entraînant des évacuations et des alertes à la pollution. Plus d'une vingtaine d'incendies font rage en Californie, où 14 000 pompiers combattent le feu. L'Union européenne va réclamer une réunion d'urgence au gouvernement britannique qui a révisé des engagements dans le cadre du Brexit en violation du droit international. Les modifications sur les arrangements douaniers en Irlande du Nord sont destinées à faciliter les échanges commerciaux au sein du Royaume-Uni. Ce revirement expose Londres à de graves conséquences, a déclaré le président du Parlement européen, David Sassoli. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a évoqué un futur débat sur une éventuelle élection présidentielle anticipée, précisant que ce scrutin dépendra de son projet de réforme constitutionnelle. Le sujet sera débattu lors d'une assemblée populaire en décembre ou en janvier, a-t-il déclaré dans un entretien à des médias russes, en martelant qu'il ne partira pas sous la pression. Moscou a protesté auprès de l'ambassadeur allemand contre les accusations de son pays concernant l'empoisonnement de l'opposant Alexei Navalny, prévenant qu'un refus de transmettre son dossier médical serait une provocation grossière et hostile. Le ministère russe des Affaires étrangères a estimé que l'Allemagne utilisait cette affaire pour discréditer la Russie sur la scène internationale. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
La République démocratique du Congo recevra 15 millions de dollars des États-Unis pour enrayer l'épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur. Les fonds serviront à fournir une assistance aux personnes touchées. Ils permettront la mise en place des programmes communautaires visant à garantir aux populations l'accès à des informations relatives à la prévention et au traitement de la maladie. Au Zimbabwe, le gouvernement interdit toute exploitation minière dans les réserves naturelles après que l'association Zela a saisi la justice pour empêcher une société chinoise d'ouvrir une mine de charbon dans le plus grand parc protégé du pays. Zela estime que ces opérations feraient courir un risque irréversible de dégradation écologique. Cela anéantirait le tourisme et l'usage écologique durable du parc et détruirait la plus grande colonie de mammifères au monde. Pour terminer, le Kenya recevra 750 millions de dollars de la Banque mondiale pour le développement de la région du Nord-Est à travers la modernisation d'infrastructures. Le financement servira à faciliter les échanges et la fourniture d'infrastructures de base pour une meilleure intégration régionale. Le projet devrait attirer de nouveaux investissements, doper le commerce régional et créer des emplois.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Crise dans le football malien. Des clubs refusent de participer aux matchs du carré d'as et des play-offs. Ils demandent l'annulation pure et simple de la saison en cours. De Bamako, notre correspondant Siaka Traoré nous explique.
Parmi les clubs qui demandent l'annulation du championnat figure le Djoliba Athletic Club de Bamako. Selon son secrétaire général Modibo Koulibaly, le comité exécutif de la Fédération malienne de football a violé les textes.
Les commissions indépendantes qui devraient être mises en place n'ont pas été mises en place à la suite d'un vote comme prévu par les statuts de la Fédération malienne de football. Ils ont été nommés contrairement à toute disposition de nos textes. À partir de ce moment, les résultats du championnat sont tronqués. La seule solution, c'est d'annuler cette saison, de convoquer une assemblée extraordinaire et de mettre en place, comme les textes le disent, les commissions indépendantes.
Pour le chargé de communication de la FIMAFOOT, le Mali joue pour la première fois de son histoire un championnat national exceptionnel avec 23 clubs. Il urge donc de le terminer afin de rentrer dans une situation normale, car la FIMAFOOT ne peut supporter le coût d'un championnat à 23 clubs. Zi Ibrahima Koulibaly.
Malheureusement, il n'y a pas eu un accord sur le quorum qui devrait venir à l'Assemblée. Extraordinaire pour la mise en place uniquement des 6 commissions. Prévu le 26 janvier 2020, le comité exécutif a demandé à la FIFA. La FIFA a dit qu'il serait judicieux d'attendre la fin du championnat, ce qui permettra de clarifier la légalité et la légitimité des clubs devant participer à la prochaine Assemblée générale de la FIMAFOOT.
Le secrétaire général du Djoliba balaye d'un revers de la main cet argument. Pour lui, la FIFA n'a fait que des propositions. En attendant, le championnat se poursuit. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
En Égypte, le parquet général va enquêter sur la disparition d'un trophée de la Coupe d'Afrique des Nations que l'équipe de football a remporté en 2010. La semaine dernière, l'ancien gardien de l'équipe nationale Ahmed Choubet a déclaré que la fédération a découvert que le trophée doré décroché par les pharaons en 2010 a disparu. Un autre ancien de l'équipe nationale, Magdi Abdel Ghani, a accusé Ahmed Hassan et Chaouki Garib, ex-joueur et ex-entraîneur de la sélection de 2010, de savoir où se trouve la coupe. Ces deux ont rejeté ces accusations. L'Égypte a été autorisée à conserver le trophée du championnat biannuel après avoir gagné 3 CAN consécutives en 2006, 2008 et 2010. Transfert, le Stade Bressois a recruté pour 4 ans Steve Mounier. L'attaquant international béninois revient ici en Ligue 1 après 3 saisons à Huddersfield, première puis deuxième division anglaise. Le montant du transfert est évalué par plusieurs médias à 5 millions d'euros. Huddersfield avait versé plus de 13 millions d'euros pour faire venir Steve Mounier de Montpellier en 2017. Né au Bénin il y a 25 ans, Steve Mounier a passé une partie de son enfance en France.
Merci beaucoup Yacouba. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. En Guinée, la Cour constitutionnelle doit publier la liste définitive des candidats retenus pour la présidentielle du 18 octobre. L'opposition est divisée sur la participation ou le boycott du scrutin. Pour en savoir davantage sur les 13 candidats qui se sont enregistrés, Eric Manirakiza a joint à Conakry le président de la maison de la presse et directeur du site Guinée News, Amadou Tamkamara.
Brièvement, il faut se dire qu'il y a un certain nombre de candidats qui sont plus ou moins connus. Il y a évidemment le président sortant qui est connu. Il y a le leader de l'opposition, Sélou Diallo Diallo, qui est allé déjà en compétition avec Alpha Condé, donc qui est également connu. Mais également, il y a d'autres anciens ministres qui sont plus ou moins connus. Il y a Abdelkader Camara, il y a Dr Ousmane Kaba. Deux dames, deux anciennes ministres aussi, Makali. Le reste, ce sont des novices, disons.
13 candidats, il y a eu une coalition qui combattait le troisième mandat de M. Condé. Finalement, l'opposition ne parvient pas à se mettre d'accord sur une ligne à arrêter.
Oui, c'est vrai que la position qui avait été celle de l'opposition lors du référendum et des élections législatives, cette position a quelque peu changé. Aujourd'hui, il y a l'opposition qui était réunie au sein du Front national pour la défense de la Constitution a quelque peu fissuré. Certains ont décidé d'aller aux élections. Il s'agit entre autres de Maître Kabele Camara, de Sélou Diallo Diallo et de Dr Ousmane Kaba, qui étaient tous membres du Front du FNDC. Par contre, d'autres ont gardé leur ligne. Il s'agit de Sidi Touré, de Lansana Kouyaté et également de Fayao Milimono et d'autres. Donc, on peut dire aujourd'hui que l'opposition n'a pas pu avoir une position, consensuelle sur la question. Cela fait que l'opposition va en rang dispersé pour cette compétition majeure.
Et quelle est la chance que l'opposition a pour freiner le troisième mandat de M. Condé?
Déjà, à mon avis, pour qu'il y ait un deuxième tour, il faut que ceux qui ne sont pas partis dans ces élections, à savoir ceux qui ont quand même un certain capital électoral, à savoir Sidi Touré et Lansana Kouyaté et Faya Milimono, doivent pouvoir donner des consignes de vote claires pour au moins un leader, afin qu'il y ait une chance d'avoir un second tour. À défaut, dispersés tels qu'ils sont, et je les vois difficilement arriver à amener le président sortant Alpha Condé à un deuxième tour, même si par ailleurs celui-ci a des difficultés dans son fief traditionnel, parce que le défi qui l'interpelle aujourd'hui, c'est de pouvoir mobiliser dans son fief traditionnel, puisqu'il y a beaucoup de déceptions là-bas, il y a eu beaucoup de promesses non tenues, ce qui aura un impact au niveau de la mobilisation de l'électorat en Haute-Guinée.
Vous parlez de M. Condé?
Absolument, oui.
Amadou Tamkamara est le président de la Maison de la Presse à Conakry, en Guinée. Le groupe de réflexion Africa Jom Center a publié un rapport qui dénonce la présidence à vie, la crise de l'état de droit et de la démocratie en Afrique de l'Ouest, surtout dans les pays francophones. Nani Talani a joint à Dakar Alioune-Tine, fondateur du groupe de réflexion Africa Jom Center.
Nous avons constaté de plus en plus ce qu'on peut considérer comme la crise de la démocratie et la crise de la sécurité. Ces crises multiples aujourd'hui qui sont en train de gangrener le climat politique et social un peu partout en Afrique de l'Ouest. Parce que quand vous regardez l'Afrique de l'Ouest, toutes les élections qui se sont déroulées ces 5-6 dernières années n'ont pas été des élections acceptées par tous. Toutes ces élections ont été contestées par l'opposition, surtout les élections présidentielles. Toutes ces élections aussi se déroulent et sont contestées parce que, un, vous avez un président qui contrôle pratiquement tous les organes, qui contrôle également aussi ce qu'on appelle les institutions administratives autonomes, les CENI, les Sénats, ce qui fait que le processus électoral est biaisé dès le départ. Donc, aujourd'hui, nous avons pratiquement une crise du suffrage universel qui peut être même déclencheur de crises beaucoup plus graves. Quand vous prenez, par exemple, le Mali, tout ce qu'on est en train de vivre au Mali aujourd'hui, c'est à cause des élections contestées, c'est les législatives, c'est important. Les problèmes que nous vivons en Guinée aujourd'hui, c'est parce qu'on a préparé des élections pour changer la constitution pour pouvoir faire un mandat, le référendum et l'élection législative. Et la préparation de ces élections ont fait pratiquement plus de 50 morts en Guinée. Beaucoup de blessés, beaucoup de gens qui ont été emprisonnés et donc beaucoup de violence et d'instabilité politique dans le pays. Si vous prenez la Côte d'Ivoire, depuis que le président Alassane Ouattara, après la mort de Gon Coulibaly, son ancien premier ministre, il a dit qu'il est candidat pour un troisième mandat, mais on a eu tout de suite 26 morts. Beaucoup de violence. Et ensuite, vous savez, dès qu'il a l'intention de se présenter, vous avez des gens qui ont été en prison. Beaucoup de députés de Guillaume Soro. Guillaume Soro lui-même inculpé. Ça veut dire que dès que vous avez une ambition présidentielle et que vous êtes crédible, vous devenez un criminel. Donc, ils l'ont mis en prison. Gbagbo ne peut pas rentrer chez lui. Il ne peut même pas avoir un passeport pour un ancien président de la République. Autant pour Blé Goudé. Donc, nous avons cette espèce d'instabilité qui s'explique par le fait de la crise profonde de l'état de droit. De la crise profonde également de la sécurité. Toute la bande du Sahel aujourd'hui, c'est les problèmes de sécurité que nous avons là-bas. La dégradation de la situation sécuritaire au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Nigeria, sans parler maintenant de tous les pays du bassin du lac Tchad qui sont plus ou moins menacés.
Pourquoi les pays francophones ont-ils du mal à ne pas respecter la limitation des mandats présidentiels?
Écoutez, parce que nous n'avons pas de véritable, dans certains pays, nous n'avons pas de véritable démocratie ou d'état de droit. C'est une espèce d'imposture démocratique qu'on a.
C'était Aliountine, le fondateur d'Africa Jump Center.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Les autorités camerounaises affirment que les séparatistes anglophones ont volé des milliers de têtes de bétail aux éleveurs Mbororo depuis juillet, les forçant à déplacer leur cheptel à des centaines de kilomètres vers des zones plus sûres. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka à Bafia, le récit de Claire Morin-Gibourg.
Sous les Kerla, un éleveur Mbororo de 41 ans conduit un cheptel de plusieurs centaines de bovins paître dans le village francophone de Balamba, dans le centre du Cameroun, près de la ville de Bafia. Ce bétail appartient à 5 peuls Mbororo, éleveurs par tradition qui vivent principalement dans la région du nord-ouest du Cameroun. Sous les Kerla affirme que les Mbororo fuient la région anglophone parce que les rebelles anglophones volent leur bétail.
Dans les régions comme Woum, les départements de Bouy, de Boyo, de Mézam, il n'y a aucun endroit où les combattants séparatistes n'ont pas volé les vaches des Mbororo. Lorsque les militaires patrouillent, vous les voyez rapporter des vaches qui ont été prises à la communauté Mbororo. C'est alors que la plupart des Mbororo ont transporté leurs vaches dans la région de l'ouest, dans la région du centre.
Le président de l'association culturelle et de développement des Mbororo, Jaji Manou Guidado, a lui aussi déplacé ses 400 bovins dans la ville de Bafia. Il témoigne que les rebelles ont volé au moins 3000 bœufs aux éleveurs Mbororo depuis juillet et confirme que les éleveurs ont déplacé environ 2500 bovins vers des villes francophones plus sûres comme Bafia, pour échapper aux rebelles.
Savez-vous pourquoi les éleveurs sont devenus une cible? C'est parce que ces combattants séparatistes ont rencontré les Mbororo et leur ont demandé de se joindre à eux pour empêcher l'administration de fonctionner. Et les Mbororo leur ont dit, non, nous sommes ici pour élever notre bétail et envoyer nos enfants à l'école.
Le ministère camerounais de l'élevage a déclaré que depuis le début du conflit en 2016, les rebelles ont saisi environ 300 vaches chaque année. L'armée camerounaise affirme que les rebelles semblent voler plus de bétail ces derniers temps en raison de l'insécurité alimentaire et pour les vendre au Nigeria pour financer leurs activités. Pour contrer les rebelles, l'armée affirme qu'elle a renforcé le contrôle le long de la frontière avec le Nigeria. Félix Ndjie Ewumbe est l'officier chargé d'aider les éleveurs de Bafoussam.
Nous les encadrons au quotidien.
Les séparatistes ont pris les armes en 2017 et veulent la création d'un État anglophone indépendant du Cameroun à majorité francophone. Selon les Nations Unies, les combats ont fait 3000 morts et contraint un demi-million de personnes à fuir leur maison.
Écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Zimbabwe, le gouvernement a annoncé qu'il rendrait des terres à certains agriculteurs blancs qui ont été expulsés de leurs fermes sous l'ancien président Robert Mugabe. Les autorités cherchent ainsi à rassurer les fermiers noirs face à ce que certains craignent être une nouvelle réforme agraire. Un reportage de Columbus Mavunga à Harare. Le récit est de Lionel Gaïma.
Heinrich von Pezold, fermier allemand, a perdu une partie de ses terres en 2001 dans le district de Mazoé, à quelques 100 km au nord de Harare. À l'époque, le gouvernement de Robert Mugabe avait adopté une politique radicale de réforme agraire en expropriant sans compensation des milliers de fermiers blancs. Maintenant, Von Pezold veut récupérer ses terres en vertu d'un accord entre les gouvernements allemands et zimbabwéens pour protéger les investissements privés dans leurs pays respectifs, connus sous le nom d'accord bilatéral de promotion et de protection des investissements. Ce ressortissant allemand a porté plainte contre le gouvernement zimbabwéen au Centre international pour les règlements de conflits liés aux investissements. Ce tribunal d'arbitrage, basé à Washington, a ordonné au gouvernement du Zimbabwe de verser une indemnité à Von Pezold. Ce dernier est prudemment optimiste après l'annonce faite par Harare de redonner des terres à certains fermiers blancs.
Le fait que le gouvernement reconnaisse ses obligations internationales est une étape très positive. Cependant, nous avons déjà eu de telles annonces et nous cherchons des actes et non des paroles. Nous souhaitons voir ce que fait réellement le gouvernement.
L'Union des agriculteurs commerciaux qui représente les agriculteurs blancs du Zimbabwe a refusé de commenter l'annonce faite la semaine dernière par le gouvernement. En juillet, le gouvernement du Zimbabwe a signé un accord avec le syndicat pour verser 3,5 milliards de dollars d'indemnisation aux fermiers blancs qui ont perdu leurs terres, même si on ne sait pas encore comment le gouvernement va trouver cet argent. Emiliana Duri, 63 ans, ancienne combattante zimbabwéenne, fait partie des fermiers noirs ayant reçu une partie des terres de Von Pezold en 2001. Elle espère que la reprise des terres par le gouvernement ne va pas l'affecter.
Il serait douloureux que la terre pour laquelle nous nous sommes battus, qu'on me demande de préparer le terrain pour un blanc qui est parti. C'est vraiment douloureux. Je vais alors commencer à me demander pourquoi me suis-je battu? C'est pour la terre. Donc, je ne dois pas être déplacé, même pour une autre personne noire, car il n'y a personne supérieur à l'autre. Nous sommes tous égaux. C'est douloureux.
Le gouvernement zimbabwéen affirme que seulement 3% environ de ceux qui ont reçu des terres seront affectés. Le reste des fermiers blancs seront payés pour les aménagements réalisés sur leurs anciennes propriétés, mais ne vont pas récupérer leurs terres. Anxious Masuka est ministre de l'Agriculture.
C'est une proportion infime de bénéficiaires. La position du gouvernement est que le programme de réforme agraire est irréversible.
Le gouvernement souhaite plutôt que les agriculteurs se concentrent sur la préparation de la saison agricole 2020-2021 qui a commencé la semaine dernière avec la plantation de tabac. Les critiques du gouvernement disent que le secteur agricole du Zimbabwe, jadis épine dorsale de l'économie, est en chute libre depuis que Mugabe a confisqué les terres des agriculteurs commerciaux blancs et les a données à des fermiers noirs inexpérimentés comme Duri. Le gouvernement rejette ces critiques et attribue ce déclin à des sécheresses récurrentes dues au changement climatique mondial.
c'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.